Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans l'ordre ou le désordre, la loi Falloux, le cri du peuple, l'argent, la guerre avec la Prusse, la commune de Paris, l'enfant, le bachelier, l'insurgé, l'exil en Angleterre. « Je serai toujours celui qui crie « Vive la République !» disait Jules Vallès, ou son personnage, Jacques Vintras, Balzac, qui avec ses Rubempré et ses Rastignac lui avait agrippé le cerveau. Le 21 septembre 1986, dans l'émission « Les historiens racontent », Henri Guillemin revenait sur la vie et l'œuvre de Jules Vallès.
« Jules Vallès, il est mort le 14 février 85, et immédiatement... Pour le prochain numéro de la Revue des Deux Mondes, M. Ferdinand Brunetière a préparé un article nécrologique. Il s'est hâté, puisque c'est dans le numéro du 15 mars qu'on a vu paraître ce texte, et c'était une pelletée d'ordures sur ce cadavre. Forban, nature foncièrement mauvaise, dangereuse, un être infâme. Je pense que vous avez déjà deviné, ces gentillesses venaient à Vallès parce qu'il avait été membre de la Commune. Alors, ce n'est pas simplement cela que nous allons étudier. Je voudrais regarder la trajectoire de ce personnage. Bien entendu, la Commune y tiendra un rôle important, mais c'est l'individu complet que j'essayerai de vous présenter, du moins tel que j'entrevois. Il était né en 32, et il va trouver moyen, je viens de vous le dire, de mourir en février 85, c'est-à-dire avant Victor Hugo. Or, Victor Hugo avait 30 ans lorsque le petit Jules Vallès, car son véritable nom c'était V-A-2-L-E-Z, était venu au monde. Donc il est entièrement encadré par l'énorme Victor Hugo. 32, 85, ça lui fait 52, 53 ans. C'est un homme relativement jeune qui va mourir, comme Verlaine, exactement au même âge. D'où sort-il? Ben, c'est des gens très pauvres. Hein. Son père était un instituteur qui va travailler avec une énergie incroyable pour passer le bachot, qui n'était pas nécessaire pour être instituteur, pour passer une licence, pour passer, vous m'entendez, l'agrégation. Cet instituteur est devenu professeur de lycée, un travailleur extraordinaire, né très pauvre. Et puis la mère, alors là c'est le comble si je puis dire, elle est presque analphabète, ses parents étaient analphabètes, c'est une fille qui s'appelait Pascal, et j'ai vu son contrat de mariage, elle avait ses nippes, mais c'est le mot qu'on employait, ses nippes et la somme de 200 francs. Voilà qui avait épousé M. Vallès. Ils auront deux enfants, un fils et une fille. Et notre Jules Vallès est celui dont nous allons regarder l'enfance qui n'a pas été heureuse. Qu'est-ce qu'il est donc arrivé? Ben, il est arrivé qu'il a découvert, quand ils étaient à Saint-Étienne, le père avait plusieurs endroits, bien sûr, où il a enseigné à mesure qu'il grimpait dans la hiérarchie scolaire. À Saint-Étienne, il avait 11-12 ans à peu près, le petit. La maison était toute en hauteur et il habitait une petite chambre tout au sommet. Puis il a été réveillé une nuit par des cris qu'il a entendus. Il était en chemise de nuit, il s'est penché là sur la rambarde pour regarder ce qui se passait en bas. Et il a vu son père et sa mère qui échangeaient des propos violents. Il a cru comprendre que la mère reprochait au père, sous couleur d'aller donner des leçons particulières en ville, une liaison avec une autre femme. C'est une cicatrice qui ne s'est jamais tout à fait refermée chez le petit. Il écrira dans son très beau livre, vous savez, qui s'appelle « L'enfant », il dit « J'ai touché la vie avec mes doigts pleins d'encre. Je suis resté les yeux ouverts pendant que les autres enfants dormaient. J'ai suivi dans le ciel la lune ronde et sans regard comme une tête de fou. » C'est très bien ce qu'il dit, vous savez, il a une arrière-pensée quand il parle d'une tête de fou. Il pense à sa sœur, Louise, Louisette, comme on disait en famille. Eh bien, Louisette, il lui est arrivé un destin horrible. Le père... s'est jamais vraiment réconcilié avec la mère depuis l'histoire de la trahison. Et M. Vallès-Père était un homme, d'après ce que raconte son fils, qui se taisait. Il ouvrait à peine la bouche, il parlait avec une politesse froide à sa mère, mais tant il avait l'esprit malade et la pensée noire, écrit Vallès, qu'il avait pris cet homme, qu'il avait pris sa petite gamine, sa petite Louise, pour tête de Turc. Et Vallès nous raconte avec épouvante ce à quoi il assistait. Il la frappait. Pour rien, je dis bien, il l'a frappé avec sa ceinture. « Mal, mal, papa !» raconte Vallès. Et il tapait encore plus fort. Quand mon père s'approchait d'elle, son brin de raison tremblait dans sa tête d'ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va devenir folle. À l'âge de 20 ans, elle va être internée et elle mourra dans l'hospice de fous à 25 ans. Voilà ce qu'avait été la première adolescence et l'enfance de Jules Vallès. Il n'était pas très travailleur et son père, qui avait tant travaillé lui, aurait rêvé une belle carrière universitaire. Il le voyait déjà normalien. Pas question, non. Il ne veut surtout pas être professeur parce qu'à ce moment-là, nous sommes sous un régime que vous vous rappelez peut-être. Ça s'appelait la loi Fallou. Oui, c'était la loi Fallou, ça veut dire loi d'enseignement, où l'enseignement de l'État, lui aussi, est contrôlé par l'Église. Alors, comme le petit Vallès, dès qu'il avait une 16 ans environ, s'était emballé pour les idées républicaines, il dit, quand je lisais Michelet et que j'entendais le tambour républicain qui résonnait dans les faubourgs, ce tambour-là, il battait directement sur mon cœur. Alors, être professeur, c'était être soumis, dit-il, à monsieur le proviseur, monsieur le recteur, monsieur le préfet, monsieur le ministre, et s'il y a une histoire dans la ville, monsieur le procureur et monsieur l'avocat général, jamais. Alors il veut pas, et son père est assez furieux de voir qu'il ne veut pas faire d'études sérieuses, et il fait son droit parce que ça n'engage pas grand-chose. Il a obtenu très difficilement son bachot, figurez-vous, très difficilement, parce qu'il était toujours collé en mathématiques, et c'est par relation qu'il a eu, parce que son père était bien avec un membre du jury, et que, en fermant les yeux, à 20 ans, il a obtenu quand même son bachot. C'est un garçon, en fait, qui s'occupe pas du tout de son travail. Ne le confondez pas, du reste, avec un de ses étudiants à la Murgère qui court les filles. Absolument pas. Mais c'est un garçon qui est passionné de politique, qui a été scandalisé lorsqu'il a vu en 1850 monsieur Thiers et sa ville multitude, qui enlevait, comme vous le savez, 3,5 millions d'électeurs. Et il est très irrité contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il fait même de la résistance républicaine dans la rue, au point qu'on va citer son nom dans le journal. Alors le papa Vallès s'est épouvanté, parce que c'est en effet possible qu'on retourne contre lui, que vous avez mal élevé votre fils, regardez ce que vous avez fait, vous avez mis cet enfant dans la rue maintenant, qui est contre l'ordre établi. Alors ce que va faire monsieur Vallès, c'est assez abominable, il va s'arranger avec un ami qui était directeur d'une hospice des fous de Nantes, et il va obtenir un certificat mensonger, disant que le fils a une atteinte d'aliénation mentale. Si bien qu'à 20 ans, en 52, janvier 22, 52, Jules Vallès est emmené de force chez les fous. Il y passera 2 mois, et c'est une chose également qu'il marquera profondément. Alors vous voyez que lorsqu'il racontera sa vie plus tard, sous le nom du reste Jacques Vintra, et en appelant ça l'enfant, livre que M. Edmond de Goncourt déclarera odieux, il a dissimulé les deux plus graves choses qui sont arrivées du côté de son père. Il inventera une Louisette Bergougnard. Il disait, on l'entendait crier, cette pauvre Louisette Bergougnard, son père était terrible. Pas question de mettre en cause papa Vallès. Et quant à l'internement de lui-même chez les fous, il va dire, mon père avait été scandalisé que je me sois compromis dans la résistance républicaine. Il m'a menacé de prison. Mais un collègue qu'il avait, plus crâne, a lui mis son fils chez les fous. Donc il a dissimulé, pour sauver la mémoire de son père, les deux choses les plus graves qu'il avait connues. Il continue à faire de la politique, il aurait pas dû, c'était défendu. Hein. Et le voilà même qui s'engage, c'était en l'été 53. Le voilà qui s'engage avec des camarades dans cette histoire qu'on a appelée le complot de l'opéra comique. C'est parfaitement vrai, il y avait un certain nombre d'étudiants qui avaient préparé un attentat, je ne sais pas si c'était une bombe ou autre chose, contre Napoléon III qui devait sortir tel jour, à telle heure de l'opéra comique. Il y avait des moutons chez eux, vous savez, des gens qui étaient là pour les faire parler, quoi. Et ils ont été tous raflés avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Et les camarades ont été extrêmement gentils à l'égard de lui, Vallès, parce qu'ils ont dit « Non, non, il n'était pas dans le coup, on vous assure, il n'était pas dans le coup. » Si bien qu'il n'est resté qu'un mois et demi en prison. Mais il a été en prison. Mais figurez-vous que cette fois, ça le change. Ce garçon qui avait bien tenu le coup, qui avait toujours été fidèle à ses idées depuis sa 16e année, parce qu'il a fait un mois et demi de prison, il dit « Je me suis engagé à tort. » Et le voilà qui va faire un retournement total sur lui-même. Dans ce livre de lui qui s'appelle « Le Bachelier », où il est extrêmement loyal, comme dans tout ce qu'il écrit, il dira « Balzac, avec ses histoires de Rubempré et de Rastignac, il m'avait agrippé le cerveau. » Agrippé le cerveau. Et il avait décidé qu'il allait réussir dans le monde. Son père lui donnait quelque argent pour faire ses études qu'il ne faisait pas. Et figurez-vous qu'il avait utilisé cet argent pour s'acheter un habit. Alors, il allait dans les salons parce qu'une correspondante qu'il avait à Paris, que les Vallès connaissaient et qui le recevait, était une dame très aisée. Et alors, lui se faisait inviter avec un habit, parce qu'il était persuadé que les relations et sa bonne mine et puis l'habileté de son langage faisaient qu'il allait trouver une citation. Bien entendu, il ne trouvera rien. Le père va lui couper ses vivres parce que cette dame avait cru devoir, c'était vrai, avertir le père qui ne travaillait pas du tout et qui s'était commandé ce costume. On est obligé de le rendre. Et Vallès va connaître des années lamentables. Entre 53 et 57, il va faire vraiment, vous savez, tous les métiers parce qu'il n'a pas le sou. Il a essayé de donner des leçons, mais ils sont trop nombreux à vouloir donner des leçons. Il va être un moment déménageur. Il va être garçon de bain dans des bains publics. Il va être coursier dans une imprimerie. C'est le pire moment de sa vie, du point de vue de la dureté de l'existence. Il dira, je me nourrissais avec un quart de ragoût à 20 centimes et je buvais du vin bleu dans des verres qui, à force d'avoir été mâchés par la fucsine, avaient le cul violet. Eh bien, ça va durer jusqu'en 57, et voilà qu'en avril 57 arrive une catastrophe. C'est la mort brusque de son père, qui était professeur, qui n'était pas vieux, qui vivait avec une maîtresse à Nantes et qui est emporté par un accident cardiaque. Il y avait trop peu de temps qu'il était agrégé, si bien que sa veuve, avec qui il ne vivait pas, mais c'était même sa veuve, n'avait pas droit à une pension normale. L'État va donner 600 francs, mais vous entendez bien, en tout et pour tout, 600 francs à Madame Vallès, et puis c'est tout. Alors son fils est tout de même épouvanté, il fait, faut que j'aide maman. La fille était morte depuis 2 ans chez les fous. Elle arrive à se vendre, il va essayer de se vendre, le pauvre garçon. Il va écrire un bouquin dont je possède un exemplaire, et j'en suis très fier parce que c'est très rare. Ça s'appelle L'Argent, c'est pas signé. C'est signé par un ancien homme de lettres devenu homme de bourse, et c'est un manuel du boursier. Il s'était fait aider pour la partie technique, pour la bourse proprement dit, d'un nommé Dervin. Ce Dervin était un agent de change qui avait été révoqué pour malversation, je sais pas quoi. Mais il avait fait une préface. Et cette préface, il l'avait dédiée à un financier juif qui, à ce moment-là, était extrêmement brillant, très réussi à Paris, au point que Lamartine va même le solliciter. Il s'appelait Mirès. Ben, la préface anonyme de Vallès à L'Argent est un texte qui fait mal. C'est un Vallès qui renie, mais violemment, tout ce en quoi il a cru. Il dit « Je fuis maintenant comme le choléra, mes anciens camarades, que chez les liquoristes on appelle les martyrs de la pensée. La pauvreté, elle épuise les forts et elle corrompt les faibles. » Puis il va comparer Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Il dit « Rousseau, il est très ennuyeux, au fond, parce que c'est un pauvre. Est-ce que Voltaire, c'est amusant, plein d'allégresse, parce que c'est un homme riche ?» Et la conclusion, c'est ceci, « Faisons de l'argent morbleu, de quoi venger le passé triste et faire les lendemains joyeux, de quoi acheter de l'amour, quoi ça veut dire des filles, des chevaux, ça veut dire des voitures, et des hommes. » Ce texte de reniement a du style quand même. Mirès ne lui en est pas reconnaissant, considérant qu'il va beaucoup trop fort, qu'il dit à haute voix ce qu'il faut jamais dire que tout bas, si bien qu'il ne l'engage pas, il a raté son coup. Mais il n'a pas entièrement raté son coup parce que les gens qui ont lu L'Argent se disent « mais ce garçon a du style ». Et voilà que Ville-Messant, personnage oublié aujourd'hui, mais très important dans la vie journalistique du 19e siècle, qui dirigeait le Figaro et l'Événement, Ville-Messant le remarque et lui demande, puisqu'il a parlé de la bourse, d'être un chroniqueur de la bourse pour donner l'atmosphère de la bourse. Alors il fait 4, 5, 6 articles dans le Figaro, qui sont des articles descriptifs et pittoresques. Mais au bout du 6e, Ville-Messant lui dit, écoutez, cher ami, ça suffit, si vous n'avez pas à faire autre chose, je ne peux pas continuer à vous garder. Heureusement, il est recueilli, si je puis dire, par Le Présent, qui est un hebdomadaire, et il va trouver moyen de faire un article intolérable. Cavaignac, ça vous dit quelque chose, Cavaignac, vous savez, c'est l'homme des journées de juin, c'était le général qui avait sauvé la République à sa façon, venait de mourir. Et voilà que Jules Vallès, repris par ses anciennes idées, fait un article très sévère sur Cavaignac, et comme on lui reproche, puisqu'il venait de mourir, il répond publiquement « La mort n'est pas une excuse ». Il se fait ficher à la porte, naturellement, du Présent. Alors on a un Vallès qui va allez, si je puis dire à Canossa, lui qui avait dit que jamais je ne serai professeur, mais il va essayer d'être professeur. Il va essayer de préparer une licence. Il devient pion dans un lycée à Caen. Ben, ça ne durera pas plus d'un an, parce qu'il ne peut pas supporter. Il y a tout de même trop de gens qui le commandent. Et il va être expéditionnaire, j'avoue ne pas savoir exactement ce que cela signifie dans le langage administratif, à la mairie de Vaugirard. À ce moment-là, il gagne environ 100-110 francs par mois. Et puis, peu à peu, la chance va venir. La chance va venir parce qu'on n'a pas oublié, dans le milieu littéraire, qu'il écrit pas mal. Et successivement, vont s'intéresser à lui directement Ville-Messant, qui s'intéressait à lui au Figaro, qui va maintenant l'inscrire à l'Événement. Feydeau, qui dirigeait l'époque. Et surtout, le vieux Émile de Girardin, qui avait lancé La Presse. Voilà un Vallès lancé. Ah mais tout à fait. au point qu'il va gagner, il s'inventera 1500 francs par mois, alors que son père, comme agrégé, touchait 1500 francs par an. Il s'habille très bien, il est très élégant, il a un chapeau haute forme un peu considérable et un ami qui lui reproche d'avoir ce chapeau provocant. Il y répond, lui, Valès, jamais trop haut pour un chapeau d'ambitieux. Et il écrit ce qu'il faut écrire pour se faire bien voir. Il dira plus tard, j'ai fait la bouche en cul de poule pour accueillir des histoires bêtes comme leurs pieds que racontaient des gens bien. J'ai travaillé pour une clientèle d'oisifs et d'heureux. J'ai piétiné ce que je pensais pour parvenir. Eh bien, c'est lui, c'est Vigréou, c'est lui, qui va briser cette chance qui était la sienne. Cette vie brillante à laquelle il avait accédé, il va la briser parce qu'il va dire des choses, faire des choses qu'on lui dit de ne pas faire. C'est en particulier Girardin qui lui avait dit, cher ami, je connais, hein, vous avez un fond d'idées très révolutionnaire, vous forcez. Et le fait est qu'il s'était bien forcé, puisqu'il avait parlé à un moment de nous autres que menacent les fusils des déclassés. Les fusils des déclassés. Et que, lorsqu'il y avait eu l'expédition de Montala, vous vous rappelez peut-être, c'était quand les oies pontificaux et des soldats français avaient combattu à Montana au profit du pape contre la République romaine. De Flotte était mort, c'était le grand homme des révolutionnaires, tandis que lui, Valès, disait « Mais nous, nous avons Pimodan !» Pimodan, c'était le lieutenant Pimodan des oies pontificaux que Valès portait au nez. Alors, le père Girardin, il avait dit « Écoutez, Valès, je vous engage, ne parlez pas de politique, hein, vous vous forcez, mais surtout pas de politique. » Et bien voilà qu'il y avait un général qui s'appelait Youssouf. Je me suis un peu informé sur ce général, ce nom est bizarre, il semble maghrébin. Et c'était un Italien qui était né à l'île d'Elbe et qui, après de brillantes victoires dans la conquête d'Algérie, avait pris le nom, je ne sais pourquoi, Youssouf. Ça passait pour une espèce de brute militaire. C'est un général qui est en activité. Valès, mal contrôlé par Girardin, qui ne lit pas d'avance ses articles, fait un article insolent dans le journal, La Liberté, contre Youssouf. Vous imaginez ce qui se passe. Youssouf envoie immédiatement deux officiers auprès de M. Girardin pour exiger des excuses. M. Jules Valès, qui avait signé l'article, est obligé de faire des excuses écrites, et il est mis à la porte de La Liberté. Comme il le dira plus tard, j'entendais perpétuellement au fond de moi une petite voix qui me disait « Fais pas ça, mon gars, fais pas ça ». Eh bien, en effet, il ne va plus faire. Alors, il est mis à la porte, mais il ne va pas essayer d'y rentrer. Et il va au contraire tenter de se faire connaître autrement, par l'autre côté, ce qui correspondait au fond de lui-même. Il va lancer un journal qui s'appellera « La rue », pourquoi pas le pavé, hein, et qui, naturellement, sera rapidement écrasé par les amendes. Dans les années où nous sommes, 66, 67, 69, Valès est un type qui vit comme il peut, avec de bons articles, dans les journaux différents, mais persécuté par la censure. Il a une fois un mois de prison, il a une autre fois trois mois de prison, il a une fois 1 000 francs d'amende, et il a une autre fois 3 000 francs d'amende. Il se débat comme il peut, mais son nom est assez connu, c'est maintenant assez connu, dans la presse d'opposition. Et nous voilà arrivés à 1870. 1870, vous le savez, c'est nous, c'est les Français, qui avons déclaré la guerre à la Prusse. Je me permets de vous rappeler les circonstances. On avait fait un plébiscite à travers la France. L'Empire avait été plébiscité admirablement parce que la France rurale était pour lui. Mais dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes, les 5 grandes villes, et à Paris surtout, c'était l'opposition qui avait gagné. L'Empire se trouvait menacé de voir qu'il était en minorité à Paris. Alors c'était Eugénie, enfin l'impératrice, qui s'était dit le meilleur moyen d'assurer que mon fils puisse monter sur un trône solide, c'est de couvrir de gloire la France. Eh bien, on va faire la guerre. Parce qu'évidemment, il y a une tension entre la France et la Prusse, parce que la Prusse semble menaçante, parce qu'on sait que Bismarck aurait voulu de nos provinces, l'Alsace et la Lorraine. L'impératrice se dit, il n'est pas question que l'armée française puisse être jamais battue. Alors on va faire la guerre. Savez-vous que Napoléon III n'était pas du tout favorable? Il avait peur de cette guerre, bien que le ministre de la guerre lui affirma que tout était en ordre, vous savez, jusqu'au dernier bouton de guêtre. Eh bien, ce que vous savez peu, parce qu'on le sait en effet très peu, c'est qu'il y a eu une tentative d'opposition à Paris le jour où on a déclaré la guerre. C'était, je crois, le 17 juillet 70. Un groupe, oh, ils étaient 400, 500, se sont mis à crier sur les boulevards à bas la guerre. Jules Valès en était. Malheureusement, l'opinion publique était entièrement pour l'empereur. On criait déjà à Berlin, si bien qu'il se fait tabasser par la foule. Il n'y a pas besoin des agents de police. Les gens convenables sur les boulevards se jettent contre ce garçon insupportable qui ose crier à bas la guerre. Puis vous savez la suite. La suite, c'est les désastres. La suite, c'est Napoléon fait prisonnier à Sedan. C'est la tentative du gouvernement dit de la défense nationale. Et là, il faut bien que je vous dise ce que je crois vrai. J'ai étudié de mon mieux. Ce gouvernement dit de la défense nationale n'a qu'une idée, c'est un gouvernement de défense sociale. Parce que précisément, ce qui s'est passé à Paris pour le plébiscite inquiète beaucoup les gens de bien. Ils se disent, mais il y a des rouges, et qui sont très importants. Ils peuvent profiter du fait que l'empereur n'est plus là pour faire un gouvernement inacceptable. Il y a un nommé Rochefort qui s'est glissé dans ce gouvernement. Il y a un Gambetta, cette espèce de borgne, extrêmement excité, super patriote, qui peut nous emmener très loin. Alors la grande pensée, il faut le savoir aujourd'hui parce que c'est la vérité, la grande pensée du gouvernement de la défense nationale, c'est de s'arranger en catimini avec Bismarck pour qu'on puisse faire un armistice qui sera en réalité une capitulation. Bien figurez-vous que ce Vallès, qui au début était contre la guerre, quand il a vu que les Prussiens arrivaient devant Paris, retrouve un sentiment patriotique qui était resté au fond de lui-même à cause de la Révolution française peut-être. Et il s'engage dans la garde nationale. Et comme c'est un type qui a du prestige et qui écrit bien, il est même chef de bataillon de la garde nationale. Le 30 octobre, il va arriver un incident que je vais vous rappeler rapidement et qui lui fera beaucoup de mal. À savoir que les généraux français, Trochu et les autres, avaient décidé de ne pas résister pratiquement. Enfin, ils pensaient que les Allemands ne lanceraient jamais une offensive, c'est vrai, sur Paris, et qu'il suffisait d'attendre qu'on puisse affirmer que Paris serait affamé. Mais voilà que des bataillons de la garde nationale, sans ordre, comme ça, par indiscipline, s'étaient jetés sur les positions ennemies le Bourget et avaient enlevé le Bourget. Donc, ils étaient entrés dans les lignes allemandes. Ça avait été une jubilation de la garde nationale. Lui, Vallès, c'était tout prêt à se diriger avec ses hommes du côté du Bourget. Mais le gouvernement de Trochu avait rien fait pour aider, ne pas envoyer ni artillerie, ni soutien, rien du tout, pour permettre aux gens de garder le Bourget. Ils avaient été obligés d'évacuer. Ça lui fait un coup épouvantable. Il se dit, mais enfin, c'est un gouvernement de trahison. Il n'avait pas tort. Mais de dire des choses comme celle-là, en pleine France, dans cette France convenable et confortable, France que un homme comme Victor Hugo ne mettait pas en cause, le gouvernement de la défense nationale était le gouvernement de la défense nationale, c'était pas vrai. Lui, Vallès, a été tellement remué, tellement secoué, qu'il va prendre part à la manifestation du lendemain, quand on avait annoncé que Bazaine s'était rendu et qu'il y a eu une tentative à gauche pour essayer de prendre le pouvoir et de faire une authentique résistance. Il se compromet, c'est vrai, il va échapper à la prison comme il pourra. Il va signer une affiche qu'on appellera l'affiche rouge, qui est une protestation lucide de la gauche et de l'extrême gauche pour dire le gouvernement est un gouvernement menteur, il ne fait pas de défense nationale et nous proposons de la faire. C'est trop tard. Déjà, Jules Favre s'est entretenu secrètement avec Bismarck pour pouvoir s'arranger. On va faire ce qu'on appellera simplement un armistice, et cet armistice n'est en fait une capitulation. Et lui, Vallès, qui est entouré d'une grande estime et qui maintenant est considéré comme une valeur à gauche, va lancer, avec des amis, un journal qui s'appellera « Le cri du peuple ». Attention, ce cri du peuple va paraître avant la Commune et avant d'avoir étudié Vallès, j'avais cru que le cri du peuple était un journal de la Commune. Non, il faut savoir que avant l'explosion du 18 mars, que je vais vous raconter maintenant, le journal était déjà paru. J'en extrais une phrase que j'ai recopiée parce que elle est extrêmement saisissante. Ça s'appelle « Paris vendu ». Et il a écrit exactement ceci. « Paris est sur la croix. Jamais les clous n'ont été fournis par tant de Judas, ni enfoncés par tant de bourreaux. » C'était une dénonciation très lucide et très véridique de ce qui s'était passé dans ce que j'ai appelé la bouffonnerie sinistre de la défense nationale. Et voici l'événement du 18 mars. Le gouvernement, c'est M. Thiers. L'Assemblée nationale, qui a été élue en février 71, est une assemblée en immense majorité royaliste. Elle s'est d'abord réunie à Bordeaux et puis elle s'est transportée à Versailles. Cette assemblée de Bordeaux a vu la démission de Victor Hugo, qui a vu ce que c'était que cette assemblée, qui était avant tout réactionnaire et qui ne ferait rien de ce qu'on espérait. Il avait donc démissionné. Et M. Thiers, qui était président du Conseil, dirigeait tout à Versailles. Les Parisiens étaient fort excités. Et en particulier, comme les Allemands avaient obtenu la permission de faire une entrée symbolique dans Paris, les troupes prussiennes ne devaient entrer que pour une seule journée et n'avancer que sur un périmètre précis. Ils avaient, les Parisiens, enlevé les canons qui se trouvaient dans la partie de Paris que les Allemands allaient occuper un instant et avaient groupé tous ces canons à Montmartre. Pourquoi l'avaient-ils fait ? Surtout symboliquement aussi, parce que la population de Paris avait été invitée à payer de ses deniers des canons de plus. C'était une des façons qu'avait eu le gouvernement de la défense nationale de tromper l'opinion publique en montrant son patriotisme. Il disait « donnez-nous des moyens de nous défendre ». Alors ces canons, ils étaient environ 150 ou 200, on les avait tous groupés à Montmartre. Mais attention, ils n'avaient pas de gargousses, c'était pas des canons qui pouvaient tirer sur Paris. M. Thiers affectait de considérer que les beaux quartiers de Paris, que le centre de Paris, étaient sous la menace des canons des prolétaires de Montmartre. Alors il avait décidé, le 18 mars, d'envoyer un régiment qui prendrait ces canons. Et c'est là que va se produire l'événement dramatique, le 88e régiment d'infanterie va se mutiner. Lorsque ce régiment avance dans la direction des canons, les gens sortent et leur disent « Mais ne faites pas ça, ce sont nos canons, puis vous voyez bien ce que vous faites, ça. » Ils se révoltent, on n'avait jamais vu ça, un régiment qui se mutine. Et ça va tourner très mal, puisque deux généraux, dont ce fameux Clément Thomas qui s'était fait connaître en 1848 au moment de journée de juin, sont fusillés dans la rue des Rosiers à Montmartre. C'est évidemment très dramatique de penser que deux généraux sont fusillés. Thiers va se venger et il a décidé, dès ce jour-là, il a décidé de reprendre Paris par la force. Paris va se constituer le jour même, ce 18 mars, en commune indépendante. Ils n'ont pas l'idée de gouverner la France, mais Paris ne veut pas céder. Paris ne cédera pas à la domination versaillaise. C'était en somme une utopie, une folie, mais c'était la tentative qu'ils veulent faire pour indiquer au moins ce qu'ils auraient voulu faire. Attention au comportement de Vallès. Vallès dit et écrit « Ne nous battons pas. Surtout pas de combat, nous sommes vaincus d'avance du reste. 2 heures de conversation à coups de canon, je cite, 2 heures de conversation à coups de canon. Et c'est 20 ans de misère assurée pour les pauvres, et c'est 20 ans de prospérité pour les banques. » Et il dit encore « Travailleur, dépose ton fusil et travaille maintenant, travaille. C'est le temps de la paix nécessaire. La guerre civile perdrait tout. » Quand il imprime ça dans son journal Le Malheureux Vallès, il ne se doute pas que c'est déjà tout perdu, parce que Thiers a décidé absolument une opération militaire contre Paris. On a voté, on a fait voter la capitale, on a demandé aux Parisiens ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient élire une municipalité, un peu de rébellion. Et il faut savoir qu'une très grande majorité de gens ont voté. On a fait croire que l'élection avait été boycottée, c'est complètement faux. Il y a eu tout de même plus de 250 000 participants. Et le 27 mars, un défilé grandiose se produit devant l'hôtel de ville. Sur les marches de l'hôtel de ville, il y a les membres de la commune, dont notre ami Jules Vallès. Les gardes nationaux qui reçoivent, comme autrefois en 1848, 1,50 € par jour pour survivre, défilent avec des fleurs au fusil. Et dans le Prix du Peuple du 29 mars, Vallès va écrire un texte dont on a parlé. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette expression, mais elle est parfaitement juste. C'est une illusion lyrique. Je vous cite les phrases principales de ce texte de Vallès. « Ce ciel tiède et clair, cette odeur de bouquet, nous voilà vengés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, Marmot, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé belle, petit. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. » Voici donc Vallès, membre de la commune, et je voulais vous donner quelques détails sur ses comportements. D'abord, il a insisté pour que le traitement des membres de la commune soit faible. 300 francs par mois. Ce sont des gens qui remplacent en somme les ministres de Napoléon III, et les ministres avaient 4000 francs par mois. Il dit, nous, 300 francs par mois, hein. D'autre part, il tient à l'assiduité. Il demande qu'il y ait un registre ouvert, qu'on signe le registre et qu'on n'ait pas d'excuses pour ne pas assister. Il y tient énormément, il prend très à cœur son travail. Et comme chacun se spécialise, enfin des groupes se spécialisent, lui, il a créé un groupe de l'instruction publique, en souvenir peut-être de son père. Et il est frappant de penser, que nous les possédons, ces notes, que ce qu'il a prévu, c'est exactement ce que réalisera, mais 12 ans plus tard, la Troisième République, c'est-à-dire l'instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque. Laïque en ce sens que il ne faut plus obliger les enfants à réciter une prière, puisqu'il faut prendre contact de la réalité, quoi. Il y avait une grande partie de la population qui n'est plus chrétienne, par conséquent, ce serait abuser des consciences que d'obliger les enfants à faire une prière dont leur père ne veut pas. Donc, l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire, c'est une idée de Vallès. Quand il a vu que Versailles attaquait, il faut bien dire qu'une partie aussi des communards avait l'intention de marcher sur Versailles, ce qui était une folie, il a considéré que tout était perdu. Et c'est un de ses camarades, je me rappelle plus si c'est Vermeer, je suis un autre, qui nous raconte une conversation qu'il a eue dans le jardin des Tuileries avec Vallès, dès que la guerre, c'était bien le mot, a éclaté. Et Vallès a fait simplement un geste horizontal sur son cou pour indiquer, ben nous, notre tête est perdue. Il faut que vous vous rendiez compte que ces généraux de Paris, qui n'avaient pas voulu se battre, le général Ducrot et les autres, et le général Trochu, qui avait considéré que se battre contre l'Allemagne, c'était du temps perdu parce que l'Allemagne nous protégeait contre les Rouges de France. Lorsque maintenant il s'agissait des Rouges de France, alors oui, ces gens, ces généraux si peu bellicistes, étaient devenus des foudres de guerre. Ils sont incandescents. On a décidé qu'on prendrait Paris et on le reprendra. Et on va commencer par un bombardement terrible des fortifications de Paris, parce que vous savez bien que M. Thiers avait garni Paris de fortifications avec des forts puissants. Et bien tous les forts qui étaient dans la direction de Versailles vont être écrasés d'obus. La catastrophe, le malheur de la Commune, dont on parle peu, mais il faut le dire, quoi, même si c'est coûteux, c'est qu'il y a eu très peu de résistance sérieuse. Vous savez qu'il y a un garçon qui s'appelait Rossel, qui était un ancien polytechnicien, et qui avait décidé de se mettre au service de la Commune. Il aurait voulu constituer une armée, enfin un noyau offensif, pour faire une riposte énergique contre les Versaillais. Je vous l'ai dit, ils ont environ 200 000 gardes nationaux qui sont payés 1,50 € par jour pour survivre. Rossel demande simplement 10 000, je demande 10 000 hommes. Quittez le jour, se réunir en place de la Concorde et on va faire une contre-offensive. Ils n'obtiennent pas ces 10 000 hommes, même pas 9 000. Les bras lui en tombent. Eh bien, Vallès voit ça de très près et s'aperçoit que la résistance de la Commune est une résistance fictive, ce qui lui déchire le cœur. Alors, ce qui était inévitable va se produire, à savoir que peu à peu, à partir du 21 mai, on va voir les troupes de Versailles qui vont entrer dans Paris. La Commune va se réduire à presque rien. Oui, c'est la peau de chagrin. Et il va se placer à ce moment-là deux incidents que je tiens à vous décrire. L'affaire de la rue Haxo d'abord. C'est le 26. La Commune va tomber le 28. Et bien, le 26, rue Haxo, il se passe ceci, que 50 prisonniers, il y avait la moitié de gendarmes et la moitié de curés, d'ecclésiastiques, qui était dans une prison qui allait tomber, semble-t-il, aux mains des Versaillais qui avançaient dans Paris, on avait décidé de le transférer. Là, vous voyez, ces 50 bons hommes, prêtres et gendarmes, qui traversent une rue étroite à Montmartre, qui s'appelle la rue Haxo, avec une très faible escorte, et des femmes, évidemment, c'est comme ça. Ce sont des femmes, exaspérées, parce qu'elles n'ont plus de nourriture, parce qu'elles voient que tout est perdu, qui se sont jetées sur ces malheureux prisonniers. Il était là, Vallès, avec quelqu'un qui est vraiment... personnage admirable de la Commune, s'appelait Varlin. Lui et Varlin vont essayer de se jeter entre les prisonniers et les harpies. Il n'y aura rien à faire. Il va assister, déchiré, à ce qui se passera, qui est atroce, avec des yeux crevés et des parties sexuelles arrachées. 1. 2. Quand il va être condamné plus tard par contumace, à la mort, bien entendu, en 72 ans, on lui dira, pour avoir participé à l'enlèvement des otages. Les otages. Le gouvernement de la Commune avait en effet riposté à ce qui se produisait à Versailles par un décret. À Versailles, on avait décidé qu'on ne ferait pas de prisonniers et que tout homme saisi les armes à la main et convaincu d'être communard serait passé par les armes. Je ne sais pas si on le faisait toujours, mais enfin, on avait l'annoncé. Alors la Commune avait annoncé en riposte, eh bien nous, nous allons prendre des otages et si nous savons d'une manière incontestable que nos prisonniers sont tués, on tuera les otages. Et à la tête des otages, il y avait l'archevêque de Paris. Eh bien, la Commune, en tant que Commune, n'a jamais rien fait contre les otages. La Commune s'est dissoute dès le 27. Il n'y a presque plus rien, il n'y a plus de réunion générale de la Commune, il n'y a plus de décision, puisque la Commune n'existe plus en tant que telle, et c'est Raoul Rigaud qui s'était occupé de la police, qui, de son propre chef, décidera l'exécution de l'archevêque. Vallès n'y était pour rien, et il racontera un peu plus tard, j'ai été le voir une fois dans sa prison, l'archevêque, et j'étais pas tellement fier, dit-il. Donc il est complètement irresponsable de ce qui s'est passé pour les otages. C'est un homme qui va risquer le tout pour le tout. La dernière barricade, c'est à Montmartre, hein, c'est le 28 au matin. Il est derrière la dernière barricade. Et il arrivera à s'en tirer. Il s'en tire parce qu'il s'est fait raser, il avait une grosse barbe noire, comme vous savez. D'autre part, il a enfilé une blouse d'infirmier et il a chippé, je crois, volé, probablement, une charrette. Où il recueille des blessés, des morts et les transporte à l'hôpital en ayant volé aussi un képi de la Croix-Rouge. C'est comme ça qu'il arrive à sauver sa vie, mais il est repéré, il se croit être repéré à un moment de deuxième ou troisième transport à un hôpital. Alors il va chez un copain qui s'appelait Roubaud, qui est un sculpteur, qui habitait près de Saint-Sulpice, et il va être là caché pendant 80 jours. Pendant 80 jours, il est chez Roubaud, tout le temps à l'idée qu'on va entendre monter l'escalier, que les sbires de Versailles vont venir pour le prendre et le tuer. Il s'en tirera quand même, grâce à sa prudence. Il passera de nuit la frontière entre la France et la Belgique, de nuit. La Belgique n'accepte pas les réfugiés de la Commune, alors il faut qu'il se sauve. Il a gardé un peu d'argent qui lui venait de Cré du Peuple, il se vendait bien, et avec cet argent, il va passer en Angleterre. Nous sommes à la fin de l'année 71, fin de l'été 71, et ce malheureux Vallès... Et là, écrivant dans une lettre, j'ai devant moi des années béantes. Les années béantes, ça va être ces années d'exil, ces années d'Angleterre, où il y a en effet un certain nombre de réfugiés de la Commune, et le pire, c'est qu'ils ne s'entendent pas bien. qu'il y aura même des bagarres entre eux. Il écrira un moment, je ne sais plus exactement par cœur, mais je crois pouvoir vous citer à peu près ça. Il dit, avant d'entrer dans un restaurant, on essaye de se hausser sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le rideau sale et pouvoir qui aille à l'intérieur. Et s'il y a des gueules qui ne nous plaisent pas, on n'entre pas. Ou alors, escouade d'abrutis, on se passe la moutarde en riant et en faisant des plaisanteries absurdes. C'est terrible pour lui, cette vie d'exil. Il ne sait pas que faire. Il a un ami, Hector Malot, vous savez Hector Malot, l'homme de Sans Famille, qui n'a aucune option politique, mais qui aimait bien physiquement, personnellement, sentimentalement, il aimait bien Dallès. Et il essaye de lui trouver des collaborations anonymes dans la presse républicaine à Paris. Mais cette presse républicaine est elle-même très surveillée, et Dallès se voit quelquefois refuser des articles. Il a eu une idée, qu'aurait pu faire quelque chose, une fresque. Il aurait voulu faire l'histoire des pauvres, l'histoire du prolétariat, ça se disait très peu encore à ce moment-là, des journées de juin à mai 71, c'est-à-dire de juin 48 à mai 71, des journées de juin à la semaine sanglante, quoi. Il l'a fait, son livre, il en a préparé du moins une espèce de canevas. Il l'a envoyé à Malot, qui l'a présenté à je ne sais plus quel journal républicain, et on lui a répondu non, que ce n'était pas possible, qu'il fallait des atténuations. La réponse de Dallès, qui a tellement besoin d'argent, me fait plaisir. Tu sais bien que je ne reculerai pas d'une semelle. Et salut, salut aux faubouriens vaincus. Je l'ai écrit, mon bouquin, pour dire mes prières datées sur nos morts. Sur nos morts, bah, vous savez qui c'est, c'était de l'Écluse, c'était ses camarades de la commune qui n'avaient pas échappé comme lui. Pendant qu'il était en Angleterre, se produit quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui fait partie de cette vie intime qu'il faut tout de même que nous regardions un instant. Depuis 63 environ, depuis 1963 environ, Dallès vivait avec une jeune femme qui était mal mariée. C'est une échappée du monde des ivrognes et des pauvres. Et il lui a donné un surnom, ou elle l'a pris, je ne sais pas. Enfin, on l'appelait la Grande Mathilde. Un homme comme Jean Richepin, par exemple, dans ses souvenirs, dira « Oui, j'ai vu, nous deux fois, la Grande Mathilde de Dallès. » Elle ne s'appelait pas Mathilde, elle s'appelait Joséphine Lapointe. Cette Joséphine Lapointe était, semble-t-il, après la correspondance, plus jeune que lui, et il l'aimait beaucoup. Je vais vous donner une preuve qui est très peu connue et, à mon avis, bien intéressante. On dit qu'il était chez Roubaud, le sculpteur, vous savez, et qu'il avait tout le temps peur d'entendre monter les sbires de Versailles. Il a écrit une grande lettre à sa mère. Je vous ai dit, je crois, tout à l'heure, qu'Edmond Goncourt, lorsqu'il a lu l'enfant, dit quel odieux livre. Eh bien, vous allez juger de son caractère odieux. Il écrit une lettre à sa mère. Il est tout près de cette lettre, et Roubaud, ou les gendarmes, accepteront s'il est arrêté de la remettre à Madame Dallès, qui est vieille. Et il lui dit, « Tu verras peut-être venir auprès de toi une femme qui te demandera ta bénédiction. Accueille-la comme ta fille. Elle a soutenu ma peine, partagé ma misère, voulu mes dangers. Je la remets entre tes saintes mains. » J'appelle votre attention sur « voulu mes dangers » parce que je sais, par la correspondance avec Arthur Arnoux, qui a été publié il y a quelques années et qui est si intéressante, je sais ce que ça voulait dire. « Voulu mes dangers », eh bien, c'est le dernier jour. Elle n'avait jamais cessé de l'accompagner pendant son travail et même quand il était allé derrière sa barricade. Et le 28 au matin, puisque c'est le 28 que ça va se passer, c'est la dernière nuit d'amour qu'ils ont passée, il part, il dit « tu sais, il faut que j'y aille ». Eh bien, il racontera à Arthur Arnoux, elle qui m'aimait tellement, elle m'a dit « non, écoute, Jules, c'est très bien ». Il faut que tu y ailles. Je t'estime tellement. Elle lui avait dit ça, je t'estime tellement. Alors il y est allé et il a pu se sauver. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé entre lui et elle. Il l'aimait tellement, tout de même, il l'aimait beaucoup. Et on ne trouve plus sa trace. Et voilà qu'en 75, il est en Angleterre depuis 71, en 75, il a un enfant. Par hasard, en l'air, comme ça dit-il. Avec une institutrice belge. Et cette institutrice belge va trouver une proposition intéressante aux Indes. N'avorte pas, elle laisse l'enfant, il lui-même désire garder l'enfant. Il l'élèvera tout seul, puisque sa maîtresse est partie. Cette petite, il l'avait appelée Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, c'était un nom qui était très bien vu dans la commune. On aimait ce nom, Jeanne-Marie. Et il s'est attaché à cet enfant qui était né au début de l'année 75 avec une extraordinaire passion. Elle va mourir le 2 décembre 75. Hein, c'était une mauvaise date pour lui, le 2 décembre. Et il va écrire plusieurs lettres, toujours à cet Arthur Arnoux, qui est un bon camarade. Et il lui dit, tu sais, elle avait que 10 mois, et elle fourrageait dans ma barbe, elle m'appelait déjà papa. Et puis il y a cette phrase que j'ai envie de vous citer aussi, je l'aimais comme j'aurais voulu être aimé enfant. Et bien elle meurt. Alors pour lui aussi c'est un coup extrêmement dur, parce que dans toujours ces fameuses lettres à Arnaud, il lui dit 6 mois plus tard, quand tu me reverras, tu ne me reconnaîtras pas. En 6 mois, j'ai vieilli de 10 ans. Me voilà gris, blanc, voûté. Il s'en remettra quand même et il attend désespérément que l'amnistie soit proclamée. Ça y est tout de même, en 1880, il va pouvoir rentrer. Il rentre, changé évidemment, et au début, on sait qu'il est à Paris, mais il ne fait pas parler de lui. D'abord, il a très peu d'argent, il ne sait pas que faire. Mais voilà qu'il se trouve en rapport avec un professeur de la faculté de médecine, qui s'appelait le professeur Gebhardt, lequel vivait avec une femme, Caroline Rémy, mal mariée, il n'y avait pas de divorce encore possible. Et on l'appellera Séverine en littérature. Et Séverine et Gebhardt se prennent d'amitié, d'admiration pour Vallès, et lui disent qu'il a de l'argent. On lui donnera de l'argent pour refaire le Cri du Peuple. Alors il ressuscite. Il y avait eu un article dans Le Figaro, dont vous connaissez l'orientation. Le Figaro avait dit, tiens, il paraît que M. Vallès est à Paris, mais il est bien changé. Et Vallès avait répondu, je ne sais comment, soit oralement, soit par un petit article, pour dire, ne vous y fiez pas. Et en effet, le voilà qui va reparaître. Et il est plein de joie, vous savez, plein de verdeur. Et il a très peu de temps à vivre devant lui. Il croit qu'il est solide comme tout, il ne l'est pas. Et il va s'engager dans un combat contre les radicaux, par exemple, contre Gambetta, qui mourra en 82. Parce que Gambetta a osé dire, la question sociale, mais ça n'existe pas. Il n'y a que des questions sociales. Et Vallès a répondu, la question sociale n'existe pas, mais il n'y en a pas d'autres. Il va faire toute une série d'articles dans le Cri du Peuple contre la politique coloniale de Jules Ferry. Parce qu'on a trop oublié en France que Jules Ferry n'est pas seulement l'homme de l'instruction publique qui a fait des choses admirables, c'est aussi un colonialiste qui disait des choses difficilement avalables sur l'argent qu'il y avait à gagner dans les colonies. Et la conquête de l'Indochine est une affaire de Jules Ferry. Alors lui, Vallès avait pris position avec violence contre ce colonialisme et il annonçait « la vivisection humaine va commencer ». Il faut que je vous dise maintenant des choses un peu précises sur ses rapports avec Séverine. J'ai travaillé, lorsque j'étudiais Vallès, dans les archives de la police. Et j'ai lu, qu'à des orfèvres, et j'ai lu une note de police disant « Le professeur Gebhardt est admirable. Non seulement il donne de l'argent à Vallès pour faire son publication, mais il lui prête sa maîtresse, il partage sa maîtresse avec lui. » C'est faux. Il a, à ce moment-là, 48 ans, 49 ans. Elle en a 28. Elle dira après, c'était mon père et c'était mon enfant. Mon père, pourquoi ? Parce qu'elle ne savait pas écrire encore, et c'était lui qui lui a tout appris. Il lui a donné des leçons de style, elle était passionnée par ce qu'il disait, elle était enthousiaste de ce qu'il écrivait. Mon enfant, parce que cet homme est tombé rapidement malade. Dès 81, figurez-vous, il a eu une attaque, syncope, dans un meeting à Saint-Étienne. Ça ne l'a pas impressionné, il dit « ça peut arriver ». Et il disait « moi, pour que je meure, il faudra qu'on me tue ». Et non, il a un diabète profond, il soigne mal son diabète, et il va être emporté. Sa dernière année sera lamentable. Les Gebhardt, qu'il aime beaucoup, parce que Gebhardt épousera finalement Séverine dès que le divorce sera rétabli en France. Gebhardt, qui est riche, s'est établi pour l'été 84 à Mortefontaine, qui est à quelques distances de Paris. Et là, Vallès est presque plus qu'une ombre lui-même, il pèse 37 kilos. 37 kilos. Et c'est Séverine, qui était une belle gaillarde, une belle femme, je l'ai vue, moi, mais je l'ai vue en 1929, c'était une grosse mémère. Toute la foule s'était levée à Paris lorsqu'elle est entrée, c'était dans un meeting communiste. Mais 1929, c'est pas la même chose que 1984, hein, elle était splendide et très forte. Alors elle racontera, mais c'est moi qui le portais, dans mes bras, de son lit à la chaise longue, ma joue contre sa joue, je lui racontais la campagne, et il me regardait avec grands yeux, plein de tendresse et de douleur. Avant de le quitter, je voudrais que nous regardions un instant l'écrivain que nous avons devant nous. Parce que vous savez, on n'a pas rendu justice à Vallès. Il a probablement été écrasé par Victor Hugo, comme je vous dis, puisqu'il se trouve pris dans les pinces d'un Victor Hugo qui a 30 ans de plus que lui, qui mourra après lui. Et il a fallu qu'on se batte, c'est M. Bellet, professeur à Lyon, qui a obtenu difficilement de Gallimard que les œuvres de Vallès soient dans la Pléiade. Et ils y sont, heureusement. C'est un grand écrivain, Vallès. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, mon professeur de première nous avait fait lire un livre d'un nommé Albala, si je me souviens bien, qui s'appelait « L'art du style par les corrections manuscrites des grands écrivains ». Des grands écrivains. Et ce monsieur Albala, dont je ne sais rien, avait placé carrément Vallès parmi les grands écrivains. Il avait raison. Alors vous savez, faire de la sémiologie à ce propos, faire des discours, ça ne vaut rien. Ce que je veux faire en 2 minutes, c'est vous apporter quelques citations que j'ai recopiées. Tenez par exemple, regardez présenter le vieux Blanqui. Avec sa bouche démeublée, ou trottine entre les gencives, un petit bout de langue rose. Regardez les Rochefort, osseux, crochu, grêlé, avec sa barbiche pointue comme un fer de toupie. Ce que j'aime encore mieux, c'est Courbet. Courbet désordonné et patient, bûcheur et soifard, qui parlait avec des circonflexes et des modulations et des pédarades de rire dans sa barbe qu'il essuyait ensuite d'un revers de main. Il a aussi un sens du comique qui est quelquefois très, très savoureux. Il raconte que sa mère, qui était, vous savez, très inculte, qui savait à peine lire et écrire, faisait des fautes de français en parlant. Et que M. Vallès était assez incorrect pour la reprendre en public, ce qui humiliait profondément sa mère. Alors Vallès écrit dans son livre, pour se venger, maman, pour embêter papa, disait exprès un squelette, une statue, un escargot. Et puis il raconte encore qu'il y a l'humour noir que je trouve terrible, c'est lui. Il dit, quand mon père m'a beaucoup battu, il est en sueur. Alors je me traîne vers la fenêtre pour la fermer afin qu'il n'attrape pas de courant d'air. Ben, un homme comme Vallès est aujourd'hui encore assez négligé. Si j'ai pu servir à quelque chose dans cet exposé, c'est à vous donner envie de lire Vallès. Et puis j'ai quelque chose à dire encore avant de finir. C'est une attitude chez lui qui me touche profondément et qui doit venir d'un souvenir d'enfance. Dans son milieu, hein, on est extrêmement anticlérique à l'antireligieux. Et vous vous rappelez qu'il a dit dans une lettre à Hector Malot, « Mon livre, c'est mes prières datées sur les morts. » Figurez-vous qu'il est tout à fait contraire, il est opposé à deux livres qui ont fait du bruit à ce moment-là. L'un de Rochefort qui s'appelait L'Aurore boréale, l'autre de Favre et Després qui s'appelait Autour d'un clocher. L'un et l'autre de ses bouquins sont furieusement anticléricaux, antireligieux. Et lui, il dit « À quoi ça rime ?» Michelet avait publié, vous le savez, un petit opuscule qui s'appelait « Le prêtre », qui était déchaînement contre le clergé. Et Vallès conclut « De quoi rire ?» De quoi rire. Et il ajoute, dans un texte que je trouve important, « Les soutanes dangereuses aujourd'hui sont un queue de redingote. » Ce qui l'empêchait d'être furieusement anticlérical, c'est un souvenir. Il y a un frère de son père, qui s'appelait le curé Vallès, Vallès avec un Z, hein, puisque c'est le vrai nom, qui a été curé du même petit patelin dont le nom m'échappe maintenant, et je vais pouvoir en retourner, je suis allé le voir. C'est un tout petit pays où il a été curé pendant 40 ans. Et l'enfant, Jules Vallès, était profondément attaché à ce curé, qui n'était pas si vieux, qui avait l'âge de son père, quoi, un peu plus, c'était un aîné. Et il était passionné d'affection pour ce prêtre. Alors, quand il voyait un ecclésiastique, je pense qu'à travers, il voyait le souvenir de son oncle curé. Et il a écrit ceci, qui contredit ce qu'il avait écrit lui-même. « Ma pensée religieuse, ben je ne suis ni déiste, ni panthéiste, pas même athée, dit-il. » Et bien voilà, grosso modo, qui était celui dont a parlé si abominablement Brunetière. Brunetière qui était un pontife, vous savez, de la littérature. Moi, quand je faisais mes études, on nous disait qu'il y a Faguet et Brunetière qui étaient vraiment les princes de la critique littéraire. Vous savez, je vous avais dit au début qu'il appelait être infâme, etc. J'ai encore recopié là des phrases de Brunetière dans ce texte abominable contre lui. Chez Vallès, l'unique accent de la convoitise, l'envie brutale du jouisseur. Il n'a jamais rien aimé. Alors, deux choses pour finir. Juste après la mort de Vallès, Séverine a fait un article qui s'appelait « Le dernier copain de Vallès ». Le dernier copain de Vallès, c'était un petit curé des environs de Mortefontaine qui était précepteur chez des gens bien. Et Vallès était profondément attaché à ce petit curé et il s'impatientait. Il disait à Séverine, mais il vient par le curé et il n'aimait qu'être avec lui. Et surtout, ce que je vais vous dire, c'est l'article d'anniversaire. Donc, 14 février 86. Oui, 86. Il était mort chez les Gebhardt dans leur appartement de Paris. C'était 77, si je me rappelle bien, boulevard Saint-Michel, au premier étage. Il est mort là et Gebhardt a fait savoir que le lendemain de sa mort, Vallès sera installé sur un grand lit et que tout le monde pouvait venir. Alors la presse, j'ai vérifié, rapporte qu'il y avait vraiment un mouvement de foule. Du côté de Montmartre et de Ménilmontant, les gens sont descendus en masse. Parce que Vallès, c'était un nom, c'est quelqu'un qui avait bien servi. Un homme qui avait dit, moi, je serai toujours du côté de ceux qui crient « Vive la République » et pour ces bataillons sans cesse foudroyés, sans cesse renaissants de la misère. Alors les gens sont venus en foule, il y a toujours des camelots qui cherchent à gagner un sou, qui s'étaient installés au bas de la maison et qui vendaient des églantines rouges en carton. Peut-être savez-vous que les églantines rouges, c'était l'emblème de la Révolution, l'emblème des rouges, quoi. Alors il y avait des types qui vendaient pour un sou, une églantine rouge. Et presque tout le monde en achetait un sou. Et ces 15 ou 20 000 personnes qui ont défilé chez Gebhardt et qui avaient leur petite églantine rouge, la jetaient sur Vallès qui était couché là. Si bien, dit Séverine, qu'à la fin du jour, le drap était devenu un drapeau.
C'était « Les historiens racontent », Jules Vallès par Henri Guillemin. réalisation Marie Vouilloux, première diffusion sur France Culture le 21 septembre 1986. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».